Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcat, capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et nous parlons toujours d'intersectionnalité justement avec Raphaëlla et Sophia, et nous abordons la fin de l'émission avec une troisième partie courte et incisive, où nous allons principalement nous concentrer sur les usages militants de l'intersectionnalité aujourd'hui. Et avant ça, simplement faire un petit récapitulatif des deux parties précédentes en termes de qu'est-ce que du coup on peut tirer à un niveau théorique de l'intersectionnalité. Alors, très rapidement, ce que je dirais, c'est que il faut une intersectionnalité qui soit plutôt matérialiste, fondée voilà, sur les rapports de domination concrets, mais qui en même temps puisse aussi s'enrichir d'apports issus des théories post-structuralistes en termes de discours, d'idéologie, d'identité, etc. Que ce soit une intersectionnalité qui est évidemment sensible aux dynamiques. Évidemment, il ne s'agit pas de transposer la théorie de l'intersectionnalité juridique au champ social, puisque évidemment, la société évolue très rapidement, donc il faut être sensible à ces dynamiques. Une intersectionnalité également qui soit contextualisée, c'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le vécu des femmes racisées est partout le même dans le monde. Il faut des études plus spécifiques, comme par exemple celle de Evelyn Nakano-Glenn sur le cas des différentes... Elle fait une étude un petit peu comparée des femmes racisées prolétaires dans le travail domestique à différents endroits aux États-Unis. Et elle montre bien du coup que la situation n'est pas complètement identique. Également, une intersectionnalité, disons, qui... pense l'imbrication des rapports de domination de manière assez proche de celle de Sylvia Loalbi, et voilà, finalement, une intersectionnalité voilà, qui pense avant tout en termes de rapports sociaux de domination, même si ça n'exclut pas que, évidemment, une approche aussi en termes d'identité, puisque les identités elles-mêmes sont aussi le produit de rapports sociaux de domination. Donc... maintenant, passons à la question du coup des usages militants. Alors, on a beaucoup, dans la première et la deuxième partie, critiqué les mauvais usages militants de l'intersectionnalité. On a aussi critiqué les accusations un peu fallacieuses, les projections fallacieuses d'une partie des militants envers l'intersectionnalité, en lui reprochant des choses qui finalement se sont avérées relativement fausses, ou au moins partiellement fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce qui existe aujourd'hui de pertinent comme usage de l'intersectionnalité dans les mondes militants, si on est dans une perspective plus globale, et aussi du coup dans le cas de la France. Et puis aussi, bah, qu'est-ce qui pourrait également être intéressant pour des militants et des militantes, en l'occurrence en France. Enfin, qu'est-ce qui serait intéressant comme usage de l'intersectionnalité pour ces militants et ces militantes qui voudraient s'en emparer?
Alors, de mon côté, je proposerais peut-être de définir deux manières ou deux lignes directrices par lesquelles l'intersectionnalité peut être utile au militantisme et aux organisations, aux mouvements sociaux, en France, mais aussi ailleurs. Donc, la première, ce serait... l'intersectionnalité comme un outil de visibilisation politique, donc d'utiliser l'intersectionnalité pour constituer des groupes qui révèlent certaines identités intersectionnelles, donc par exemple des communautés queer au sein des communautés musulmanes, donc par exemple il y a un groupe qui existe aux Pays-Bas, ou bien l'afroféminisme, ou bien je connais une association en Italie de migrants LGBT, donc de former des groupes pour permettre à certaines populations de se constituer en mouvement politique et de donner de la visibilité à leur cause. Donc ça serait la première définition d'un usage possible de l'intersectionnalité comme outil organisationnel et militant. Le deuxième outil, ou la deuxième approche, ce serait d'utiliser l'intersectionnalité de manière beaucoup plus large comme une approche théorique, analytique des problématiques de manière transversale pour un groupe militant, un groupe de travail ou un mouvement social. Donc ce serait d'analyser des problématiques qui sont propres au groupe, par exemple un groupe féministe, de les analyser de manière intersectionnelle et de manière systématique pour avoir une approche de ces problématiques et de ces enjeux qui soit véritablement inclusive, solidaire et qui permette de penser l'interdépendance des mouvements féministes avec d'autres groupes. Et donc poser aussi les fondations d'une coopération future beaucoup plus importante que certains isolements qu'on peut observer aujourd'hui dans les mouvements militants.
Mais finalement, il pourrait s'agir d'un espèce de positionnement théorique des militants, enfin pro-intersectionnalité, dans le sens où il s'agirait de toujours partir avec le présupposé que, enfin, on prend en compte les points de vue situés des interlocuteurs qu'on aurait face à soi, et du coup ce positionnement théorique serait de facto adopté contre un espèce de positionnement théorique qu'on a plus ou moins aujourd'hui, qui est plutôt de voir ça comme contraire à une lutte collective et plutôt comme une espèce de fragmentation de la lutte, et au contraire d'adopter en adoptant un positionnement théorique intersectionnel, on élargit les acteurs de la lutte plutôt que de diviser la lutte elle-même.
Oui, ça c'est intéressant justement sur cette question des questions d'alliance, de convergence, de coordination des luttes. C'est vrai que dans les années 70, dans Nos Amis et Nous, Christine Delphi avait proposé une interprétation radicalement différente que celle qui prévalait dans le mouvement ouvrier dominant. Le mouvement ouvrier dominant disait aux féministes « Mais en fait, soit vous êtes avec nous, soit vous divisez la lutte. » Et en fait, ce que Christine Delphi a argué, c'est qu'il peut y avoir des alliances entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, mais il faut que ce soit une alliance où chaque protagoniste, entre guillemets, de l'accord accepte de reprendre à son compte les revendications de l'autre. Donc, Christine Delphi disait, d'accord, on veut bien être anticapitaliste, d'ailleurs, bon, en l'occurrence, une bonne partie du MLF l'était, mais il faut que le mouvement ouvrier lui aussi reprenne les revendications du mouvement féministe. Et simplement, je pense que c'est toujours quelque chose de valable, simplement là, ça s'élargit, puisque dans le mouvement féministe, il faut penser la question, par exemple, de l'alliance entre les féministes blanches et les féministes racisées. Et pour que cette alliance se fasse, il faut non pas invoquer, comme on pouvait le faire avant, le sujet femme qui fait que il faudrait en fait que les féministes racisées se rallient sans condition aux féministes blanches, acceptent de mettre leurs oppressions spécifiques sous la table, mais que cette alliance se fasse sur des bases égalitaires, c'est-à-dire que les féministes blanches aussi s'attaquent à leur propre racisme, au racisme en général, etc. etc. Et donc simplement, j'ai l'impression que l'intersectionnalité, ce n'est pas un outil de division et de fragmentation des luttes, c'est simplement un outil qui complexifie un petit peu plus la question de l'alliance, mais cette question de l'alliance, de toute façon, elle était de toute façon indispensable. Sinon, on retombe dans des schémas unitaires où les revendications des femmes blanches sont prises pour les revendications de toutes les femmes, et donc les revendications spécifiques des femmes racisées passent à la trappe, tout comme dans le mouvement ouvrier, les revendications spécifiques des femmes passaient à la trappe, puisque le mouvement ouvrier, de facto, historiquement, a principalement défendu, même si c'est un crime de lèse-majesté peut-être de le dire, les intérêts principalement des hommes blancs ouvriers. Et donc, l'intersectionnalité, c'est essentiel pour bâtir un mouvement social qui est capable de rallier un très large nombre, parce que, en fait, c'est pour ça que dans les groupes militants d'extrême-gauche, il y a si peu de femmes et si peu de personnes racisées et si peu de femmes racisées, encore plus, c'est aussi parce que ces groupes militants sont souvent incapables de reprendre à leur compte eh bien, les combats spécifiques de ces personnes. Et même s'il y a une charte antisexiste et antiraciste, ça ne suffit pas pour une politique d'alliance entre guillemets intersectionnelle. Il faut que les militants blancs, éventuellement ouvriers ou pas, peu importe, reprennent à leur compte, disons, les perspectives de lutte intersectionnelle, si ils veulent pas simplement que la lutte anticapitaliste, en l'occurrence, soit simplement une lutte d'hommes blancs d'origine de classe moyenne et ou prolétaire, quoi. Et par rapport à ça, par rapport à la question de l'approche politique et théorique, qui était ton deuxième point, ça me faisait penser à la question de l'analyse des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les groupes militants, dans les périodes de mouvements sociaux, produisent des analyses de ces mouvements sociaux, et souvent, ces analyses de mouvements sociaux sont pas du tout intersectionnelles. Alors, la caricature, évidemment, c'est... par exemple, lundi matin, qui ne prend même pas en compte la question de la classe, qui prend simplement l'affrontement entre une espèce de foule qui n'a aucune caractéristique sociale et le pouvoir incarné par la police. Bon, dans les analyses marxistes, on va prendre en compte la classe, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est prendre en compte toutes les dimensions, et notamment, c'est ce qui avait été fait dans une brochure en 2016 sur la loi travail, où il y avait eu le fait que, en fait, cette loi travail allait peser encore plus sur les femmes, puisque la double journée allait s'allonger, que la flexibilisation nuisait encore plus aux femmes, les temps partiels imposés, etc. Et il y avait également une dimension, si je me souviens bien en tout cas, de prise en compte aussi des questions de race, puisque on sait que les femmes prolétaires qui occupent les emplois les plus précaires, les plus mal payés, les plus aux horaires les plus impossibles, les emplois les plus dévalorisés, sont des femmes prolétaires racisées. Et du coup, il faudrait qu'il y ait, que les militants et militantes se mettent systématiquement à produire des analyses des mouvements sociaux qui soient intersectionnelles, simplement pour une meilleure intelligibilité de la situation, et aussi pour essayer de mobiliser, pas simplement, et ça c'est un des gros problèmes des mouvements sociaux, et celui de 2018 n'y a pas fait exception, de mobiliser autre chose que les étudiants blancs de classe moyenne dans les universités. Il y a un problème par rapport à ça, et une perspective intersectionnelle permettrait de résoudre à la fois des problèmes d'analyse et des problèmes de mobilisation.
Et peut-être enfin on pourrait rappeler que si au sein des mouvements sociaux les femmes ont dû se séparer du mouvement ouvrier et les femmes racisées ont dû se séparer du mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est parce que la division de la lutte était déjà là, parce que c'était des mouvements sexistes l'un et l'autre. Et du coup, peut-être plutôt que de jeter l'opprobre sur les populations qui sont intersectionnellement opprimés, peut-être pointer du doigt les groupes militants eux-mêmes qui oppriment ces individus et qui refusent de reconnaître leur oppression pourrait être un premier pas.
Oui, non, ça c'est clair. C'est vrai que c'est vraiment scandaleux que le mouvement ouvrier blanc ait pu accuser les féministes, mais aussi les gays, les lesbiennes et aussi les personnes racisées de diviser la lutte, alors qu'en réalité, le plus grand facteur de division des luttes, c'est lorsque le mouvement social reproduit les rapports de domination en son sein, et lorsque, en l'occurrence, le groupe dominant des mouvements sociaux, qui est un groupe dominant dans la société, alors pas sur tous les plans, mais en général, sur tous les plans, à part celui sur le plan de la classe, lorsque ce groupe dominant, donc, reproduit les rapports de domination. Et évidemment, cette reproduction des rapports de domination, elle conduit le mouvement social à finalement ne plus défendre que des intérêts extrêmement particuliers. Et c'est là où on voit le renversement du particulier et de l'universel. C'est-à-dire que les ouvriers blancs ou les hommes blancs de classe moyenne prétendent représenter l'universel, alors qu'en réalité, les mouvements sociaux qui sont focalisés uniquement sur la satisfaction de leurs propres intérêts sont les mouvements les plus spécifiques, les plus partiels et les plus non-universels qui soient. Et c'est précisément un mouvement qui prendra en compte les intérêts intersectionnels de l'ensemble des groupes sociaux qui pourrait vraiment se prétendre universel, entre guillemets. Et donc finalement, il faut inverser cette espèce d'accusation de la division de la lutte. En réalité, ce sont souvent les hommes blancs de classe moyenne ou d'origine populaire qui divisent la lutte en refusant de remettre en cause leurs privilèges liés à la race et au genre, et en reconduisant les rapports de domination, qui fait qu'après, ce sont les mêmes qui vont s'étonner que, étrangement, ils ne sont qu'entre hommes blancs dans les groupes militants. Après, sur la première partie de l'intersectionnalité, sur les outils de visibilisation politique, simplement pour dire qu'il y a déjà des... Enfin, je voulais simplement mentionner trois groupes qui sont déjà constitués justement de manière intersectionnelle, qui sont les Lesbians of Colors, le groupe queer et trans racisé, qui maintenant est devenu queer et trans révolutionnaire, et également la revue et le groupe transféministe matérialiste, qu'on espère aussi inviter, justement pour parler de leur expérience intersectionnelle propre et de qu'est-ce que ça produit comme effet pour repenser la critique sociale et l'émancipation. Donc, je vous remercie, Sophia et Raphaëlla. Et on remercie également les auditeurs et les auditrices qui auront survécu à ces 2 heures d'émission qui, j'espère néanmoins, auront été enrichissantes et utiles.
Merci.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patriarcat.